VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition de jeudi 9 avril 2020. Eric Manirakis à la présentation. D'abord le sommaire. L'armée tchadienne déclare la perte de ses 52 soldats tués dans une opération contre Boko Haram. Au Niger, 2 gendarmes et 2 terroristes tués près du Mali. L'Afrique subsaharienne devrait entrer en récession en 2020 selon les prévisions de la Banque mondiale. Les États-Unis enregistrent le plus grand nombre de cas de coronavirus dans le monde et le plus fort taux de chômage en 2 semaines. La pandémie de Covid-19 menace la planète d'une catastrophe économique sans précédent. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. L'opération militaire lancée contre le groupe djihadiste Boko Haram au lac Tchad a coûté la vie à 52 militaires tchadiens, selon le porte-parole de l'armée tchadienne, affirmant qu'un millier de djihadistes ont été tués. Les détails avec Bagassi Kour.
Le porte-parole de l'armée tchadienne affirme qu'un millier de djihadistes ont été tués au cours de ces opérations lancées le 31 mars et qui se sont achevées hier mercredi. L'objectif était de chasser les djihadistes du sol tchadien, ce qui, selon l'armée, a été un succès. Les djihadistes de Boko Haram se trouvent désormais en profondeur sur le territoire du Niger et du Nigeria, a assuré le porte-parole, le colonel Azem Bermendoa Aguna. Lundi, le porte-parole du gouvernement assurait qu'il n'y avait plus un seul élément de Boko Haram sur le territoire tchadien. Confirmant le message du président Idriss Déby Itno, moins de 2 semaines après le lancement d'une offensive sur l'ensemble de la zone insulaire, il n'y a plus un seul djihadiste, avait affirmé le week-end le président depuis la province du Lac, où il s'est rendu mi-mars pour diriger la riposte après une attaque de Boko Haram sur la presqu'île de Bohoma. Une centaine de militaires tchadiens ont alors été tués. Le président Déby ne cache pas sa frustration envers ses 3 voisins avec qui le Tchad combat Boko Haram au sein de la force multinationale mixte. Le Tchad est le seul à supporter le poids de la guerre, a dit le président Déby. Boko Haram, né en 2009 au Nigeria, a intensifié ses attaques dans la zone du lac ces derniers mois, poussant N'Djamena à redéployer en janvier 1200 soldats de la force conjointe qui ont quitté le Niger pour revenir au Tchad.
2 gendarmes nigériens et 2 terroristes ont été tués dimanche dans une attaque à Banibangou, région de Tillabéri, ouest, près du Mali, selon un communiqué du ministère de la Défense qui précise avoir reçu un soutien aérien français. L'armée nigérienne affirme aussi avoir infligé de lourdes pertes aux islamistes lors de plusieurs opérations dans l'est du pays. Dans un autre communiqué concernant le sud-est du Niger, le ministère annonce que des caches d'armes, des plots logistiques et plusieurs pirogues ont été détruits, ainsi que des îles servant de base aux terroristes ont été bombardées lors d'une opération bilatérale Tchad-Niger lancée le 29 mars. L'Afrique subsaharienne devrait entrer en récession en 2020 à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, alors qu'un premier décès d'un patient de 52 ans souffrant de la maladie a été enregistré en Somalie. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
Le ministère somalien de la Santé indique avoir répertorié 12 cas de contamination dans le pays, dont 4 nouvelles infections chez des personnes n'ayant pas voyagé à l'étranger. Au Nigeria, l'arrivée hier d'un groupe de 15 médecins chinois pour aider à lutter contre la pandémie est critiquée par plusieurs associations locales de professionnels de la santé. Le gouvernement nigérian a annoncé la libération prochaine de 2670 détenus pour désengorger les prisons et limiter la propagation du virus en milieu carcéral. À Madagascar, le président Ange Rajoel affirme qu'un remède à base de plantes est susceptible de soigner les malades du coronavirus. Il n'a pas précisé le nom de cette plante, mais indique que le pays va faire les essais. Sur le front économique, la Banque mondiale prévient aujourd'hui que l'Afrique subsaharienne pourrait entrer en récession cette année à cause de l'impact considérable du Covid-19 sur la croissance, une première en plus d'un quart de siècle.
En Tunisie, des ONG ont appelé les autorités à libérer les détenus âgés et à ne pas emprisonner des citoyens pour des violations du confinement et du couvre-feu imposé face à la pandémie du Covid-19, en privilégiant amendes et travaux d'intérêt général. La pandémie de coronavirus ne doit pas être un chèque en blanc pour bafouer les droits humains, a averti jeudi la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, critiquant les pouvoirs illimités adoptés par certains pays. L'ancienne présidente du Chili a également appelé tous les gouvernements à accroître considérablement l'accès aux informations et à des statistiques précises sur la pandémie, soulignant que la transparence est primordiale et peut sauver des vies en cas de crise sanitaire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis continuent d'être le pays avec le plus grand nombre de cas de coronavirus dans le monde, avec plus de 432 000 personnes infectées et près de 15 000 décès. Mais le président Trump se veut optimiste. Le point avec Abdrahman Dia.
L'optimisme dont le président Trump a fait montre dans sa dernière conférence de presse fait suite à de nouvelles projections qui font état d'environ 60 000 morts d'ici le mois d'août si les mesures de restriction sont maintenues jusqu'à cette période. La Maison-Blanche avait avancé il y a une semaine des chiffres pouvant aller de 100 000 à 240 000 morts. Les spécialistes continuent d'insister que l'heure n'est pas au relâchement. Selon le docteur Anthony Fauci, membre de l'équipe de coordination dans la lutte contre le COVID-19, les Américains pourraient même prendre des vacances d'été à condition que les États maintiennent les mesures strictes de confinement déjà en place. Les autorités américaines affirment que les chiffres de cette semaine pourraient continuer à être alarmants, mais qu'on pourrait bientôt commencer à voir le bout du tunnel. Sur le plan économique, la Banque centrale a annoncé ce jeudi l'octroi de 2 300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour soutenir l'économie. Aujourd'hui, le département en charge de l'emploi a annoncé que 6,6 millions d'Américains ont déposé des demandes d'allocation de chômage, s'ajoutant aux 6,8 millions de la semaine d'avant.
Les dirigeants mondiaux s'efforcent de surmonter leurs divisions pour apporter des réponses concertées à la pandémie de COVID-19 qui a fait environ 90 000 morts avec plus de 1 500 cas d'infection, menaçant la planète d'un désastre économique sans précédent. Nathalie Barche.
La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a prévenu que cette pandémie aura les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression. Après l'Italie, les pays les plus endeuillés sont l'Espagne, avec plus de 15 200 morts, les États-Unis plus de 14 800, la France plus de 10 800 et le Royaume-Uni avec près de 7 100 morts. L'Iran a annoncé 117 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à plus de 4 000 morts. Au Bangladesh, un confinement total a été mis en place dans le district de Cox's Bazar, abritant près d'un million de Rohingyas. Le Venezuela a reçu 90 tonnes de matériel de l'ONU dans des kits de protection pour les soignants. Jusqu'ici, quelques 300 000 cas dans le monde sont considérés comme guéris.
En Irak, Mustafa al-Kazimi, actuel chef du renseignement, est désormais troisième homme chargé cette année de former un gouvernement. Il est connu comme un habile négociateur qui devra user de ses réseaux aussi bien à Washington qu'à Téhéran, pour sauver l'Irak du cataclysme économique et politique. Au moins 18 membres des forces du régime syrien et de ses alliés ont péri jeudi dans une attaque perpétrée par le groupe État islamique dans l'est de la province de Homs, où des combats font rage. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 11 djihadistes ont été également tués dans les affrontements et bombardements aux abords de la ville désertique d'Al-Sukhna, contrôlée par l'armée syrienne. Le gouvernement afghan a déclaré qu'il allait libérer 100 prisonniers talibans supplémentaires jeudi, alors que les insurgés ont abandonné les négociations sur le sujet, qualifiant d'inacceptable l'élargissement coup par coup de leurs captifs par Kaboul. Kaboul avait déjà relâché mercredi 100 prisonniers qui avaient prêté serment de ne jamais retourner sur le champ de bataille. Les insurgés ont négocié avec Washington l'échange de 5000 prisonniers talibans contre 1000 membres des forces afghanes, un point clé de l'accord bilatéral signé le 29 février à Doha, mais non ratifié par Kaboul. Dans son texte, les États-Unis ont promis un retrait des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois, à condition que les talibans respectent leurs engagements et entament des négociations inter-afghanes sur le futur du pays. Au Yémen, les rebelles houthis ont dévoilé leur vision d'une solution politique dans le pays en guerre depuis 5 ans. Selon un document adressé à l'émissaire des Nations Unies, Martin Griffiths, Elle s'articule autour de 5 points, le retrait de toutes les forces étrangères du Yémen, la fin du blocus imposé par la coalition et la réouverture de tous les aéroports, y compris celui de Sanaa, le paiement pendant 10 ans des salaires des fonctionnaires de toute l'administration, le financement de la reconstruction et dédommager ceux qui ont perdu leur maison ou leurs biens dans les raids aériens. Enfin, tout accord sur une solution politique négociée sous les auspices de l'ONU devrait être soumis à un référendum populaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Nuit Niteko qui vous est présentée ce soir par Kéki Abadou.
L'Afrique subsaharienne devrait entrer en récession en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Une première en plus d'un quart de siècle, a prévenu la Banque mondiale. La pandémie teste les limites des sociétés et des économies à travers le monde et les pays africains seront particulièrement frappés, a estimé Hafez Ganen, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. La Banque africaine de développement a annoncé avoir créé un fonds de 10 milliards de dollars pour aider les pays africains. Il y a deux semaines, la BAD avait émis un emprunt obligataire social « Combattre le Covid-19 » d'un montant de 3 milliards de dollars, soit le plus grand emprunt social libellé en dollars américains émis sur le marché international des capitaux, rappelle le communiqué. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a réclamé un plan Marshall pour l'Afrique, alors que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé en mars au G20 d'alléger la dette des économies les plus vulnérables et de préparer un plan d'aide financière d'urgence d'une valeur de 150 milliards de dollars. La Banque des États de l'Afrique centrale annonce qu'elle met à la disposition des banques en activité dans la zone CEMAC une enveloppe de liquidité de 250 milliards de francs CFA pour la semaine allant du 9 au 16 avril 2020. C'est la seconde opération du même type pour le même montant qu'initie la BEAC en l'espace d'une semaine, soit un total de 500 milliards de francs CFA en deux semaines pour faire face à la crise du coronavirus.
Sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Direction le Bénin pour commencer avec des nouvelles du sélectionneur des écuries, Michel Dussuyer, qui nous parle de ses poulains et de ses activités en ces temps d'arrêt des compétitions sportives.
Toujours à la recherche, toujours à l'écoute de ce qu'il fait, des joueurs qui seraient susceptibles de venir nous rejoindre, en essayant de cibler aussi des jeunes joueurs, parce qu'ils représentent aussi l'avenir. Sans négliger les talents locaux aussi. Et aujourd'hui, tout est arrêté, donc on va espérer que tout ça reprenne rapidement et qu'on soit prêt pour les prochaines échéances.
Cet arrêt des entraînements collectifs et de la compétition n'empêche cependant pas Michel Dussuyer de continuer son travail, notamment sur le plan de la prospection.
Pour moi, le travail ne s'arrête pas. Maintenant, la porte elle est fermée pour personne. Une fois que les activités auront repris et que les joueurs évolueront dans leur club.
Michel Dussuyer, sélectionneur des écureuils béninois au micro d'Élisée Oumpatine, notre correspondant au Bénin. En Espagne, le Real Madrid s'est mis d'accord avec les joueurs pour réduire leur salaire d'au moins 10% cette année. Selon la presse espagnole, la baisse sera de 10% si la saison 2019-2020 va à son terme et de 20% si elle est définitivement arrêtée. La masse salariale des Merengues est estimée à 283 millions d'euros. Cet accord permettra au Real d'économiser entre 28 et 56 millions d'euros en fonction de l'avenir de la saison 2019-2020. Il permet également au club d'éviter de devoir recourir à un plan de chômage partiel car cela affecterait plus ses 800 salariés dont les salaires sont largement inférieurs aux joueurs des équipes professionnelles de football et de basketball. En athlétisme, la World Athletics a confirmé que les championnats du monde auront lieu du 15 au 24 juillet 2022 en Eugene, en Oregon. Les dates initiales du 6 au 15 août 2021 coïncideraient avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo qui auront lieu en juillet-août 2021. Ces nouvelles dates des championnats du monde ont été choisies pour éviter d'entrer en conflit avec les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham en Angleterre. Les précédents championnats du monde ont eu lieu à Doha au Qatar donc l'année dernière et l'édition 2023 aura lieu à Budapest.
C'était l'espoir de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza, de retour avec vous à présent les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, RDC, Vital Kamerhe, allié et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a passé sa première nuit au centre pénitentiaire de Kinshasa à Makala, où il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis hier. Monsieur Kamerhe a été entendu par le parquet dans le cadre des enquêtes sur des soupçons de détournement du financement des travaux de grands ouvrages de 100 premiers jours de Félix Tshisekedi au pouvoir qu'il a géré. Eddie Isango a joint le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba.
Au vu de la non-coopération dont M. Vital Kamerhe avait fait preuve lorsqu'il avait refusé de répondre à la première invitation et que par la suite il s'est rendu au parquet général avec un grand nombre de ses militants, constituerait éventuellement un obstacle qui risquerait de compromettre la suite de son instruction. Et donc à ce moment-là, il l'a placé en détention préventive pour s'assurer de sa présence à la prison. Et après les 5 jours qui vont s'écouler, il sera obligé de faire organiser une audience même spéciale pour qu'il ait l'autorisation de les garder encore en détention au moins pendant 15 jours. Après 15 jours, il peut encore solliciter pour 30 jours et faire renouveler ça au moins 2 fois avant soit de les libérer ou de l'envoyer devant son juge pour un procès.
Le premier président de la Cour de cassation vient d'annoncer les renvois de toutes les affaires jusqu'après la période de l'état d'urgence. Quelle incidence cela peut-il avoir sur l'arrestation et la suite de l'affaire Kamerhe maintenant?
Le fait que le premier président de la Cour de cassation ait décidé de faire renvoyer toutes les affaires pendantes ne pourra pas avoir d'impact sur l'instruction du dossier de Vital Kamerhe parce que les parquets sont organisés en service minimum et tous les chefs de parquet d'ailleurs continuent à travailler. Ils pourront continuer, comme par le passé, à assurer la protection de l'ordre public et donc les dossiers en cours au niveau des parquets ne pourront pas souffrir de quoi que ce soit. Ils ne sont pas liés par la mesure prise par le premier président de la Cour de cassation.
Monsieur Vital Kamerhe était, lors des élections, un allié d'État et il est encore au président Félix Tshisekedi. Mais que devient alors leur coalition, les cas?
À mon avis, les poursuites pénales engagées contre Monsieur Vital Kamerhe ne peuvent pas avoir d'impact sur la suite de la coalition parce qu'elles engagent Vital Kamerhe en tant qu'individu.
Les partisans de l'UNC, les partis de M. Vital Kamerhe, ont plutôt déclaré que leur chef n'a pas agi seul, mais il a agi en tant que directeur de cabinet au nom du président de la République. Voudrait-il dire qu'il réclame par là à la tête du président de la République ou l'enquête va-t-elle remonter jusqu'à lui?
La défense qui vise à faire croire que M. Vital Kamerhe posait les actes sous la direction du président de la République et par conséquent ces actes pourraient engager directement la responsabilité du chef de l'État est inappropriée et non fondée parce que je rappelle que lui en tant que directeur du cabinet du président de la République, il n'est qu'un haut fonctionnaire qui anime un service. Tous les actes qu'il pose ou qu'il a eu à poser dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions l'engage sur le plan pénal, l'engage individuellement. Il ne peut pas prétendre faire engager le président de la République dans le cadre de l'accomplissement de ses propres obligations professionnelles.
Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont repris leurs attaques alors que le gouvernement a annoncé un plan de reconstruction de ces régions anglophones. L'armée affirmait que des raids ont été signalés dans au moins 7 villages. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, le récit de Lionel Runanira Gahima.
Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a fait savoir que les ingénieurs du génie civil ont dû quitter le nord-ouest après des attaques répétées dans cette région. Le président Paul Biya leur avait confié la mission de reconstruire les routes de régions anglophones dévastées par 3 ans de conflit.
Les travaux ont commencé. Malheureusement, certains criminels sont venus et ont détruit les biens de l'entreprise. Mais nous devons continuer sans montrer aucun signe de faiblesse. Le chef de l'État lui-même est extrêmement engagé.
La semaine dernière, M. Paul Biya a créé ce qu'il a appelé le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions anglophones. Celui-ci prévoit la construction des routes, d'écoles, d'hôpitaux, d'édifices publics, de marchés dans des zones dévastées par 3 ans de combat. Après l'annonce de ce plan, les séparatistes ont averti qu'ils n'accepteront pas de tels projets venant d'un gouvernement qu'ils qualifient d'étranger. Ils ont commencé à attaquer les postes militaires et à incendier les infrastructures, notamment les bureaux, des conseils locaux et les écoles. Les militaires ont fait état des violents affrontements dans lesquels 13 combattants ont été tués. Pour leur part, les séparatistes affirment sur les réseaux sociaux que les pertes sont supérieures du côté des troupes gouvernementales, des allégations que l'armée rejette. Bernard Okalia Bilai, gouverneur de la région anglophone du Sud-Ouest.
Les populations ont compris qu'elles ont été induites en erreur et ont réalisé que leur avenir, leur espoir sont au sein des institutions et que ce que les chefs de l'État ont mis à leur disposition constitue leur avenir et qu'elles doivent collaborer avec les autorités, les forces de l'ordre pour dénoncer les auteurs de troubles. Il y a eu assez de dégâts.
Christopher Efimba, chef de l'ONG Hope Cameroun, estime que l'État doit s'assurer que la paix revienne pleinement dans ces régions anglophones.
Le développement des infrastructures ne peut pas être mis en œuvre si nous n'avons pas une atmosphère paisible. La conséquence, calmer l'atmosphère. Nous avons besoin de la paix pour permettre aux travailleurs de construire les routes. Si le peuple n'accepte pas la paix, il est impossible à tout caterpillar, n'importe quel bulldozer, d'aller essayer de construire une route.
Les troubles ont commencé dans les régions anglophones du Cameroun en 2017 après une répression des manifestations pacifiques des avocats et des enseignants qui se disaient marginalisés par la majorité francophone. En octobre 2019, Paul Biya a organisé un dialogue national, mais les séparatistes n'y ont pas pris part. Selon les Nations Unies, les troubles ont fait plus de 3 000 morts et quelques 500 000 déplacés.
Au Tchad, les forces de l'ordre sont accusées d'abus contre les populations civiles dans le cadre de l'application des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus. À N'Djamena, plusieurs citoyens affirment avoir été bastonnés. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Depuis l'instauration du couvre-feu et la fermeture des bars et alimentation, les forces de l'ordre sont mobilisées sur le terrain. Mission, assurer le respect de ces mesures gouvernementales. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer des abus, des bastonnades, mais aussi des extorsions financières. Au micro de VOA Afrique, quelques victimes expliquent leurs mésaventures.
Environ 21h, je voulais ramener la femme de mon frère à l'hôpital parce qu'elle est en travail. Quelques instants, je vois un véhicule venir. Arrivé à mon niveau, il y a un qui est descendu. Il a commencé à me frapper. Son collègue est descendu encore. Lui aussi, j'étais sûrement en train de me taper.
On a un cas d'urgence à l'hôpital. Juste 100 mètres de l'hôpital, le commissaire était là. Il m'a posé la question. Vous ne savez pas que c'est le couvre-feu? Comme c'est une urgence, c'est pourquoi on est parti. Il est descendu, laissez-nous la moto, suivez-nous à la commissariat. C'est matin, je me suis rendu à la commissariat. Donc la moto est là, paye 6 000 et tu prends la moto. J'ai appelé ma grande venue, elle a payé les 6 000 et ils ont aussi retiré l'essence. C'est presque plein. Hein.
Les femmes vendeuses de la bière locale disent aussi être victimes de ces abus policiers.
J'ai ouvert un cabaret, mon mari n'a pas de travail et c'est avec ça que je nourris mes enfants. Il y a deux femmes qui ont préparé chez moi. Nous sommes par dedans et non au cabaret. Ils ont ramassé les femmes là. Ils ont même arrêté mon mari. Il a payé une somme de 3 000 francs avant d'être libéré. Mais les femmes là, ils ont demandé de payer 30 000 d'avoir libéré mes casseroles.
Le directeur des publications du journal en ligne, Tachat.com, Kita Ezekiel, affirme aussi avoir été pris en partie par la police. Il dit avoir été arrêté, bastonné avant d'être libéré.
Ils se sont mis à me frapper. Après, on m'a pris pour me jeter dans le véhicule. J'avais assez des images, même les audios, les vidéos. Ils ont formaté mon ordinateur, ils ont vérifié que l'ordinateur est vieux. C'est à ce moment qu'on m'a remis mon ordinateur, ils m'ont remis aussi mon téléphone et ils m'ont demandé de partir.
sportive.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar El Hissen, est conscient de la situation, mais parle d'actes isolés. Il invite la population à plus de responsabilités.
C'est vrai qu'il y a eu d'abus, mais il faut comprendre que dans cette chaîne-là, il ne peut avoir que des cas isolés de ce genre. Mais, à contrario, il faut également dire à la population d'aider aussi les forces de défense et de sécurité qui assurent leur sécurité. On ne prend pas des mesures comme ça au hasard. Donc, il y a également cet incivisme-là qu'il faut relever. Vous avez également des gens qui n'avaient pas de logis, qui profitent de l'occasion pour semer le trouble. Et donc, force doit revenir à la loi.
Le responsable de la commission sécurité du Covid-19 met en garde tous les agents qui seront surpris en train d'infliger des amendes indues ou appliquer des traitements dégradants à la population. André Kodmadingar Ndjamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Arrivée controversée au Nigeria d'une équipe médicale chinoise de 15 membres pour aider dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Leur venue est critiquée par plusieurs associations de professionnels de la santé, alors que le pays compte maintenant 267 cas confirmés. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
L'équipe de médecins chinois est composée de spécialistes des maladies infectieuses, des maladies respiratoires, des soins intensifs et des cardiologues, entre autres. L'annonce de leur arrivée a provoqué des réactions hostiles de la part du principal syndicat des médecins nigériens. Les médecins chinois sont là pour aider le pays à contenir le coronavirus qui provoque des craintes au Nigeria. Beaucoup de Nigériens s'inquiètent en raison du système de santé du pays et la forte densité de la population. Zhu Pingjiang est l'ambassadeur de la Chine au Nigeria. Dans les moments difficiles de la lutte en Chine contre le Covid-19, nous avions reçu le soutien total du Nigeria. Il est temps pour nous de rendre le geste de l'amitié et de la gentillesse. Les médecins chinois sont placés en confinement pour 14 jours depuis leur arrivée. Ce confinement a été demandé par le syndicat des médecins nigériens comme l'une des conditions pour tout étranger qui arrive dans le pays. Le ministre nigérien de la Santé, Osagie Ohanire, était à l'aéroport Nnamdi Azikiwe d'Abuja. Ils seront en quarantaine pour 14 jours. Ils le savaient avant de venir et ils ont effectué des tests dans leur pays avant de quitter. Le centre nigérien du contrôle des maladies est allé voir où ils sont en quarantaine. Et ils sont libres de les rendre visite durant les 14 jours. Donc ce problème est résolu. Les médecins chinois sont arrivés avec des kits de tests, des blouses de protection individuelle et d'autres équipements médicaux. Le Nigeria a déjà reçu un premier don d'équipements médicaux offert par Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine. Ces livraisons avaient également suscité des critiques. L'Agence nigériane de contrôle des maladies a même été obligée la semaine dernière de démentir les rumeurs selon lesquelles le matériel venu de Chine était déjà contaminé. L'activiste Deji Adeyanzou s'est dit très inquiet. Vous savez, il y a beaucoup de craintes dans le pays et cela est justifié. Parce qu'il a été prouvé que les Chinois envoient des kits périmés dans plusieurs parties du monde. Nous ne pouvons pas vérifier maintenant si cela est volontaire ou non. Mais comme ils sont déjà là, les Nigériens doivent être vigilants. La Chine, d'où est partie l'épidémie de Covid-19, multiplie les envois de missions médicales et du matériel travers le monde, notamment sur le continent africain, avec qui les liens économiques sont déjà très forts. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Écoutez, VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une centaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, Lionel Emmanuel Agahima, Michel Joseph et Joselle Morissa. À la présentation, Eric Maniakis. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. À très bientôt. Bonne soirée à tous.